J'ai vécu dans le bidonville d'Alexandra, près de Johannesburg, dans une cabane au sol en terre, sans chauffage, ni électricité ou eau courante. La vie à Alexandra était merveilleuse et précaire. Il y avait une atmosphère vivante, un esprit aventureux, des gens ingénieux. Le township se vantait de posséder quelques beaux bâtiments, mais on pouvait honnêtement le décrire comme un bidonville. La fumée épaisse des braseros et des poêles remplissait l'air. Il n'y avait qu'un seul robinet pour plusieurs maisons, et des flaques d'eau stagnantes, pleines de larves, s'étalaient sur le côté de la route. On appelait Alexandra la ville obscure, à cause de l'absence totale d'électricité. Il était dangereux de rentrer chez soi la nuit car il n'y avait pas de lumière, et des cris, des rires, et parfois des coups de feu déchiraient le silence. Une obscurité fort différente de celle du Transkei qui semblait vous envelopper dans une étreinte de bienvenue. À la fin de 1941, on m'a prévenu que le régent se trouvait à Johannesburg et qu'il voulait me voir. J'étais inquiet, mais il s'est montré gentil et attentif, en m'interrogeant d'un ton paternel sur mes études et mes projets. Il a reconnu que ma vie prenait un bon départ et qu'elle serait différente de ce qu'il avait imaginé pour moi. Si le régent semblait satisfait de moi, il était très mécontent de Justice et disait qu'il devait retourner à Mkekezwani. Justice avait une liaison avec une jeune femme et je savais qu'il n'avait pas l'intention de rentrer. Justice était un fils de chef et un futur chef lui-même. J'ai dit à Justice que je pensais qu'il devait rentrer. Ma réaction l'a dérouté, et il a décidé de rester. Moins de 6 mois après la visite du régent, Justice et moi avons appris sa mort au cours de l'hiver 1942. Après l'enterrement, j'ai passé près d'une semaine à Mkekezwani, des jours de souvenirs et de redécouvertes. Rien ne vaut le retour dans un endroit qui n'a pas changé, pour découvrir combien on a soi-même changé. Je me rendais compte que mes idées et ma conception du monde avaient évolué. Je n'étais plus attiré par une carrière de fonctionnaire. Ma vie à Johannesburg, mes contacts avec des hommes comme Gore Radebe, ce que j'avais vécu au cabinet, tout cela avait radicalement modifié ce que je croyais. Je revoyais le jeune homme qui avait quitté Mkekezwani alors qu'il n'était qu'un garçon naïf et provincial qui ne connaissait pas grand-chose du monde. Maintenant, je croyais voir les choses comme elles étaient. Cela aussi, bien sûr, était une illusion. La situation de Justice était différente de la mienne, et après la mort du régent, de nouvelles et importantes responsabilités lui incombaient. Il devait succéder au régent comme chef de Mkekezwani, et il avait décidé de rester pour faire valoir son droit de naissance. Je devais retourner à Johannesburg et je ne pouvais même pas attendre son installation. En Kosa, on dit « Ndiwilimilambo et Namagama ». J'ai traversé de grands fleuves. Cela veut dire qu'on a parcouru de longues distances, qu'on en a retiré une grande expérience et qu'on y a gagné une certaine sagesse. C'est à cela que je pensais en rentrant à Johannesburg. Depuis 1934, j'avais traversé des fleuves importants dans mon pays, mais il m'en restait beaucoup à franchir. À la fin de 1942, j'ai passé l'examen final pour ma licence. J'avais enfin atteint ce rang que j'avais considéré autrefois comme tellement élevé. J'étais fier d'avoir obtenu mon diplôme. Mais je savais aussi qu'en lui-même, il ne représentait ni un talisman, ni un passeport pour la réussite. Au cabinet, j'étais devenu très ami avec Gore. Ce qui me faisait l'impression la plus profonde, c'était son engagement total dans la lutte de libération. Il vivait et respirait la recherche de la liberté. Parfois, Gore assistait à plusieurs meetings dans la même journée, où il était un des principaux orateurs. Il ne semblait penser qu'à la révolution. Je l'accompagnais au meeting du conseil consultatif du township et à ceux de l'ANC. Je voulais comprendre les questions dont on débattait. J'évaluais les arguments. Je voyais l'envergure des hommes impliqués. les réunions du conseil consultatif étaient bureaucratiques. Mais dans celles de l'ANC, il y avait des débats et des discussions animées sur le Parlement, les lois sur le pass, les loyers, le tarif des bus, tous les sujets qui concernaient les Africains. En août 1943, j'ai défilé avec Gore et 10 000 autres personnes pour soutenir le boycott des bus d'Alexandra, une manifestation de protestation contre l'augmentation des tarifs de 4 à 5 pence. Gore était un des responsables et je l'observais en pleine action. Cette campagne a eu un grand effet sur moi. De façon modeste, j'avais quitté mon rôle d'observateur pour devenir participant. Je trouvais que défiler avec les siens était exaltant et encourageant. Mais j'ai aussi été impressionné par l'efficacité. Après 9 jours, pendant lesquels les autobus ont circulé à vide, la compagnie a remis les tarifs à 4 pence. Monsieur Sidelski semblait considérer qu'on perdait autant de temps à parler de politique qu'à en faire. Il me conseillait continuellement de m'en méfier et me mettait en garde contre Gore et Walter Sisulu. « Nelson, vous voulez être avocat, hein ?» me demanda-t-il. Je disais « Oui. » « Et si vous êtes avocat, vous voulez réussir, hein ?» À nouveau, je disais « Oui. » « Alors si vous faites de la politique, votre activité professionnelle va en souffrir. » Vous aurez des problèmes avec les autorités qui sont souvent des alliés dans le travail. Vous perdrez tous vos clients et vous ferez faillite. Vous ferez le malheur de votre famille et vous finirez en prison. Voilà ce qui vous arrivera si vous faites de la politique. J'écoutais tout le monde et j'évaluais soigneusement les conceptions. Tous les arguments avaient des mérites. Je penchais déjà vers une sorte d'engagement politique, mais je ne savais ni quoi ni comment et je restais sur le bas-côté, à hésiter. À Johannesburg, je fréquentais des milieux où le sens commun et l'expérience pratique étaient plus importants que les hautes qualifications universitaires. Même au moment où je recevais mon diplôme, je m'étais rendu compte que presque tout ce que j'avais appris à l'université était peu adapté à mon nouvel environnement. À l'université, les professeurs se méfiaient de sujets comme l'oppression raciale, le manque de possibilités pour les Africains et l'ensemble de lois et de règlements qui asservissaient l'homme noir. Mais dans ma vie à Johannesburg, il s'agissait de choses que j'affrontais quotidiennement. Personne ne m'avait jamais dit comment repousser les mots des préjugés raciaux et je devais apprendre seul par la méthode des essais et des erreurs. En 1943, je me suis inscrit à l'université de Witwatersrand pour un LLB, un diplôme de bachelier en droit, la formation universitaire pour être avocat. L'université de Witwatersrand, connue sous le nom de WITS, était considérée comme la meilleure université de langue anglaise en Afrique du Sud. Le travail au cabinet me permettait pour la première fois d'être régulièrement en contact avec des Blancs, et l'université me permit d'entrer dans un groupe de blancs de mon âge. Les universités de langue anglaise d'Afrique du Sud favorisaient le développement d'idées avancées, et elles acceptaient des étudiants noirs. Pour les universités de langue afrikaans, une telle chose était impensable. WITS m'a ouvert un nouveau monde, un monde d'idées, de convictions politiques et de débats, un monde où les gens se passionnaient pour la politique. J'étais parmi des intellectuels blancs et indiens de ma génération, de jeunes hommes qui formeraient l'avant-garde des mouvements politiques les plus importants des prochaines années. Je découvrais pour la première fois des gens de mon âge engagés fermement dans la lutte de libération, disposés, malgré leur situation relativement privilégiée, à se sacrifier pour la cause des opprimés.